Le nouveau Front populaire va-t-il accéder au pouvoir après sa victoire lors de ce second tour des élections législatives? Pour l'instant, l'heure est aux négociations, mais au-delà du nom du potentiel Premier ministre, c'est bien le programme qui préoccupe les milieux économiques et financiers, car pour les leaders du Parti socialiste et des Insoumis, hors de question de transiger avec les propositions fortes de la gauche dans cette campagne.
Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme.
Bien sûr qu'il y a des priorités et parmi lesquelles, évidemment, il faut commencer par le pouvoir d'achat. Faire en sorte que nous puissions commencer par à la fois le SMIC, l'augmenter, et faire en sorte aussi de bloquer les prix de première nécessité pendant les 6 premiers mois et permettre une négociation avec le milieu de la distribution pour pouvoir faire en sorte que les prix puissent baisser.
Avec nous pour ce débat, Anne de Guigné, qui est grand reporter au Figaro Économie. Votre livre « Ils se sont si souvent trompés, 10 grandes erreurs qui ont bouleversé l'économie mondiale » est paru aux éditions du Rocher. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Chloé Ridel, eurodéputée PS Place Publique, porte-parole du Parti Socialiste. Et Frédéric Bianchi, mon confrère journaliste de BFM Business. Frédéric, quelle est la réaction des marchés financiers à ce résultat surprise de nos législatives?
Alors depuis ce matin, c'est l'encéphalogramme plat.
Ça, c'est extraordinaire.
Il ne se passe rien sur les marchés. Alors, le CAC 40 a un peu reculé, mais comme il aurait pu reculer la semaine dernière ou il y a un mois, ça n'a pas bougé. Le coût de la dette, parce que c'est ça, c'est le thermomètre de la peur, c'est-à-dire c'est le taux auquel la France va emprunter sur les marchés. On rappelle que la France, pour survivre aujourd'hui, elle emprunte 285 milliards d'euros par an sur les marchés. Eh bien, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas bougé aujourd'hui. La différence avec l'Allemagne est restée stable. Donc, les marchés n'ont pas du tout réagi. Alors, il y a deux raisons à ça quand on les interroge, ces investisseurs.
Oui.
Ils nous disent il y a deux choses. D'abord, on avait réagi avant. Ça fait 3-4 semaines que le taux d'emprunt de la France augmente. On avait déjà réagi. La deuxième raison, c'est qu'ils croient qu'il n'y aura aucun gouvernement. Ils se disent aujourd'hui, on a évité le pire, on n'aura pas le Rassemblement national, on n'aura pas le nouveau Front populaire, qui sont des programmes qui terrorisent les marchés, hein, littéralement. Hein. C'était des programmes qui, selon eux, ne seront pas appliqués. Donc ils se disent, on se dirige vers un gouvernement technocratique, comme on a pu avoir en Italie. Il ne se passera rien, mais attention, il ne se passera rien aujourd'hui, mais ils restent malgré tout très prudents, et peut-être que le revirement en fin de journée, notamment sur le CAC 40, montre qu'il y a quand même beaucoup de frilosité.
Chloé Ridel, c'est non négociable. Si un membre du nouveau Front populaire arrive à Matignon, il bloquera tout de suite les prix, augmentera le SMIC?
Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que Emmanuel Macron doit prendre acte de sa défaite, parce que il se trame dans les coulisses.
Je répondrai à ma question, bien entendu.
Je répondrai à ma question, mais je dois d'abord rappeler qu'hier, les Français ont voté et que leur vote doit être respecté. Et qu'il y a deux grands perdants dans cette élection, c'est M. Macron et M. Bardella. Les Français ont dit clairement qu'ils ne voulaient ni l'un ni l'autre. Maintenant, nous, nous allons devoir gouverner. Nous, le nouveau Front populaire, nous avons cette responsabilité de former un gouvernement. Ce gouvernement sera minoritaire, puisque nous n'avons pas de majorité absolue à l'Assemblée. Mais nous allons faire le contraire de ce que Emmanuel Macron avait fait en 2022 quand il avait formé, lui, son gouvernement minoritaire et qu'il avait fait passer des mesures, elles aussi minoritaires dans l'opinion, comme la réforme des retraites au forceps. Nous, nous allons certes former un gouvernement qui sera minoritaire à l'Assemblée nationale, mais nous allons tenter de faire passer des mesures qui, elles, sont majoritaires dans l'opinion. Je pense à l'impôt plus progressif sur l'héritage en taxant, en ciblant sur les hauts patrimoines. Je pense à la régulation de l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Je pense au blocage des prix.
Les mesures immédiates, pardonnez-moi de vous interrompre.
Volet climatique, toutes ces mesures-là sont majoritaires dans l'opinion.
Le SMIC,
et donc, ça n'est pas la même
méthode. Le SMIC, c'est immédiat, l'augmentation du SMIC?
Le SMIC, c'est un décret et l'augmentation du SMIC, elle aussi, je vous renvoie au sondage, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une mesure majoritaire dans l'opinion. Et donc, comprenez bien ma logique. C'est-à-dire que certes, nous allons former un gouvernement minoritaire puisque nous n'avons pas de majorité absolue, mais que nous n'appliquerons pas la même méthode que celle d'Emmanuel Macron et nous irons faire passer à l'Assemblée des mesures qui sont majoritaires dans l'opinion et libres à chaque député.
Mais par décret, ce n'est pas à l'Assemblée. Hein. Blocage des prix, même chose?
Le blocage des prix est aussi une mesure qui est
majoritaire. Immédiat, décret? Il y a médias et décrets.
Mais le vote des Français doit être entendu. Et surtout, nous devons veiller à répondre aux
normalement,
urgences
pour ça, faut être majoritaire.
Qui couvrent dans le pays, parce que tous les politiques qui ont fait campagne de terrain pendant cette campagne éclair vous diront que le pays est profondément fracturé, que le Rassemblement national est très haut, même s'ils n'ont pas obtenu une majorité hier. Ils ont quand même progressé en nombre de députés et que pour éteindre ce feu, il faut répondre au sujet du pouvoir d'achat, des transports, de la mobilité, des services publics.
Vous êtes très clair. Anne de Guigné, on va prendre les mesures dans l'ordre. Tout d'abord, le blocage des prix. Comment ça fonctionne? Qui va payer? Combien ça va coûter?
Bah ça, c'est plutôt à notre ami député qu'il faudrait le demander. Les détails, pour l'instant, ne sont pas bien connus. Ce qu'on sait dans l'histoire, c'est que ça crée toujours plus d'inflation au final, parce que ça crée des pénuries. Il y a eu des blocages des prix, ça fait depuis 2000 ans.
Mais à qui profite un blocage des prix, fondamentalement?
Fondamentalement, ça va profiter aux producteurs se retirent, ceux qui ne peuvent plus gagner d'argent. Si vous mettez les prix trop haut, ceux qui ne peuvent pas faire de marge se retirent. Et au final, vous avez toujours des marchés parallèles qui se mettent en place. Parce que ça fait 2000 ans qu'on pratique le blocage des prix. Le premier à l'avoir fait, c'est l'empereur romain Dioclétien. Il s'est passé exactement ce qui s'est passé. Et chaque fois, c'est revenu tous les 200 ans. Et chaque fois, se passe la même chose. Du coup, l'offre se retire. Vous avez des pénuries. Et au final, des marchés parallèles.
Ce que vous ne dites pas, c'est que les prix, ces dernières années, ont augmenté plus vite que l'inflation réelle parce qu'ils ont été portés par des marges et des super profits constitués par des entreprises de l'agroalimentaire ou de l'énergie.
Par exemple,
vous voyez bien que ces prix sont au-delà du coût de rendement puisque,
en Europe, le dernier a fait un blocage des prix. Je pense que c'est pas votre modèle. C'est Monsieur Orban en Hongrie. La grande politique du blocage des prix en Europe, c'est Monsieur Orban. Résultat, c'est en Hongrie où l'inflation est la plus forte. C'est mathématique.
C'est mathématique.
Alors, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est vrai que, alors, il y a eu deux pays en Europe. Il y en a pas eu 36 000 qui ont voulu bloquer les prix. Alors, bloquer les prix quand il y a de l'inflation, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. On serait plutôt même sur une tendance déflationniste. Dans l'alimentaire, j'ai regardé les derniers prix de juin, on est à +0,8. +0,8, ça veut dire qu'il y a plein de produits qui baissent. Donc, bloquer les prix, ça veut dire éviter les baisses, premièrement. Ensuite,
vous nous dites, éventuellement, il aurait fallu les bloquer avant, mais maintenant, ça n'a plus de sens.
Maintenant, voilà, c'est une mesure de 2022. Victor Orban, effectivement, a bloqué les prix. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bloqué les prix d'une dizaine de produits. Il a bloqué, par exemple, le blanc de poulet. Le blanc de poulet, parce que les Hongrois sont de gros consommateurs de blanc de poulet. Pommes de terre, eux. Qu'ont fait les industriels? Ils ont bloqué le prix du blanc de poulet parce que c'était une obligation légale. Ils ont augmenté le prix des cuisses de poulet, le prix des blancs de dinde de l'ordre de 50%. Voilà ce qui s'est passé. Les consommateurs hongrois sont allés dans les magasins, ils ont acheté le blanc de poulet parce qu'il était pas cher. Résultat, le produit au prix bloqué, il y en avait plus. Il y avait plus que les produits à +50, +60%. L'inflation en Hongrie, quand il a décidé le blocage des prix, 3 mois plus tard, elle était à +50% sur l'alimentaire. En France, on était à 16%. Donc, le blocage des prix, c'est une mesure qui n'a jamais prouvé son efficacité.
Est-ce que ce n'est pas risqué, Catherine Tricot, de bloquer des prix pendant 6 mois, puisqu'on sait très bien qu'on va avoir un rattrapage 6 mois après? C'est-à-dire que j'allais vous dire, c'est une mesure que l'on peut parfaitement comprendre, parce qu'il y a des Français qui souffrent, mais qui vont payer d'un moment ou un autre,
Je pense qu'on est rentré dans une période où on va ajuster les mesures qui vont être mises en œuvre, proposées par le nouveau gouvernement, qui vont être étudiées, ajustées. Idem pour le SMIC qu'on veut augmenter, mais qu'il va falloir augmenter en ayant des mesures d'accompagnement pour les TPE. Et que donc, de la même manière, là, l'enjeu, c'est de permettre aux familles qui sont les plus en difficulté de réussir à surmonter le moment difficile. Voilà. Donc, je pense que c'est ça la philosophie.
Quand on augmente le SMIC, on fait en sorte que le résultat, c'est qu'une plus grande part de la population est payée au SMIC. On l'a vu ces dernières années. Le SMIC a fortement augmenté. On est passé de 14 à quasiment 20% de la population payée au SMIC. Ce qui veut dire qu'avec une augmentation à 1 600 euros, on peut considérer qu'un quart des salariés français...
Et alors, c'est un problème?
Ah ben, ça fait partie des électeurs qui se sont prononcés en disant ben nous on en a marre de cette vie au SMIC, on en a marre d'être sur cette échelle des salaires écrasés. Quand on augmente le SMIC, la première conséquence, c'est qu'une part plus importante et croissante de la population des pays au SMIC, on frôle les 20% aujourd'hui. C'est
pour ça que Chloé Ridel, pardonnez-moi, je vous donne la parole ensuite, mais est-ce que vous allez trouver le moyen de rassurer les patrons de PME qui sont effrayés par cette mesure qui pourrait leur coûter très cher? Et on peut les comprendre.
Précisément.
Même si, évidemment, on sait très bien que personne ne souhaite que les Français qui soient au SMIC ne gagnent pas mieux leur vie. Enfin, donc, on est dans un espèce de deal permanent et d'équilibre difficile à trouver.
Il faut quand même commencer par dire qu'à 1 400 euros, il est très difficile de vivre dignement dans notre pays. Et je ne parle même pas de partir en vacances ou de pouvoir se déplacer. Il y a une souffrance quand même liée à cela qu'il faut entendre. Donc nous, ce que nous voulons, c'est permettre aux gens qui travaillent, parce que quand on est au SMIC, on travaille, de vivre décemment de leur travail. Et nous savons que l'essentiel des gens qui sont rémunérés au SMIC le sont par des TPE-PME. Et nous ne tenons absolument pas à fragiliser ces petites entreprises qui font vivre le tissu économique dans beaucoup de nos territoires. Et donc, nous financerons cette hausse du SMIC par des crédits d'impôt qui seront ciblés sur les TPE-PME et pas sur les grandes entreprises qui, elles, auront à assumer, oui, cette hausse du SMIC. Voilà ce que j'ai à répondre.
C'est déjà, le SMIC est déjà très, très épaulé. C'est-à-dire qu'en fait, on est quasiment, il n'y a quasiment pas de charge sur la hausse du SMIC. Contrairement à ce qu'avait dit M. Attal, où il disait quand vous augmentez de 100 euros, ça coûte 500 euros. C'est oui, absolument faux. Donc, c'est totalement faux. C'est-à-dire que l'augmentation du SMIC, elle est quasiment directe pour le salarié. Et en effet, je pense qu'il y a des moyens d'épauler les entreprises. Il y a évidemment la politique, je dirais, de relance keynésienne pour abonder les carnets de commandes. Mais enfin, ça met du temps et ce n'est pas universel. Donc, il y aura, ce qui a été dit par Mme Ridel, des appuis pour aider les entreprises à passer l'étape. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer à avoir un pays autant en souffrance sur ses salaires. La France, enfin, je crois qu'il y a quand même un constat qui est à peu près unanime. Les gens gagnent trop peu leur vie en termes de salaire. Donc il faut augmenter et se remettre dans une dynamique positive pour les salaires.
Et je peux compléter, Anne de Guigné, je vous donne
juste
la parole.
Dire que des pays voisins l'ont fait. L'Espagne et la Belgique.
Et l'Allemagne.
La Belgique, le SMIC est à 2000 euros et il ne s'est pas passé de grands chambardements économiques.
C'est juste. Vous vouliez intervenir?
Oui, on peut dire qu'on est tous d'accord qu'avec 1400 euros en France, on ne vit pas bien.
Bien sûr.
Et je pense que là, c'est un constat qui est unanime. Essayer de traiter le problème par l'augmentation du SMIC, moi je pense que c'est une... On est là pour en débattre. Je pense que c'est la mauvaise solution.
Pourquoi?
Mais tout simplement parce que nous sommes dans une économie ouverte et que ça va réduire les marges des entreprises qui vont risquer de comprimer leurs investissements et au final de réduire la croissance. C'est un économiste qui n'est pas vraiment un économiste droitier, Olivier Blanchard, qui l'a dit très clairement, augmenter le SMIC dans l'économie actuelle, au final, vous pénalisez toute votre économie. Comment on augmente les pouvoirs d'achat? On est tous d'accord, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Mais c'est la productivité, c'est créer plus de richesses, c'est la productivité, c'est mettre le paquet sur l'enseignement et l'innovation. Pour au final,
en baissant les charges, éventuellement.
En baissant les charges, au niveau du SMIC, il y en a plus. Le débat, c'est pas. Non, et au contraire, on a peut-être trop concentré. Le problème aujourd'hui en France, c'est que les gens n'ont plus de perspective, parce que vous avez par ces politiques de baisse de charges, beaucoup de personnes, vous passez 40 ans dans la même entreprise et vous passez du SMIC à SMIC plus 20%. Et ça, c'est épouvantable. Donc, votre vie entière, vous allez avoir une très légère augmentation. Donc, ce qu'il faut, c'est redonner de la perspective aux salariés, une des vraies évolutions pour pouvoir, en fin de carrière, être beaucoup mieux rémunérés. Et ça, c'est vrai que les baisses de charges, elles étaient pleines de bonnes intentions, mais elles ont créé ces trappes à bas salaire. Ça, c'est ce que
Catherine
tout le monde dénonce.
Tricot.
C'est pour ça qu'il est prévu de faire une conférence salariale. Et je pense qu'en effet, contrairement à ce qui s'est passé ces derniers temps.
Ça marche comment une conférence salariale?
C'est-à-dire que c'est
le. Il y a 6 mois de conférence salariale. Hein,
et... Donc là, il s'agit de mettre autour de la table les syndicats, les représentants du patronat et de descendre également dans les entreprises. Et en fait, aujourd'hui, il y a trop peu la dynamique de négociation salariale et de représentation des salariés, y compris d'ailleurs ceux des TPE-PME qui peuvent se faire représenter au-delà de leurs propres représentants à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui sont indispensables. Je pense qu'il faut donner plus de marge de négociation, de pouvoir aux salariés de négociation à l'intérieur de l'entreprise pour répartir le bénéfice de l'entreprise, notamment en partie
mais
au bénéfice.
La question de la productivité est fondamentale. En France, on est le seul pays d'Europe
où elle a baissé
ces dernières années.
Mais notamment parce qu'on a fait des travaux.
Pourquoi les salaires augmentent? Parce que la productivité augmente. Ils n'augmentent pas parce qu'on décide d'augmenter tel ou tel minima, SMIC, tout ça. C'est parce que la productivité augmente. Pourquoi la productivité? Et ce sont des questions qu'il faudrait aborder dans ces conférences salariales. Pourquoi la productivité française baisse? Est-ce que c'est parce qu'il y a un fort taux d'absentéisme? Est-ce que c'est parce que les entreprises ne mettent pas les outils aux salariés?
Pendant des dizaines d'années, elle a augmenté les salariés n'ont rien récupéré.
Sauf que, oui, alors, il y a ce premier.
Les salaires suivent la productivité, c'est très simple, c'est mathématique.
Alors,
la productivité n'augmente pas.
Elle a baissé globalement. Elle n'a pas baissé par emploi. C'est ça qui est la différence. C'est-à-dire qu'en fait, les emplois qui ont été créés sont des emplois de très faible valeur ajoutée. C'est ça qui fait qu'on n'a pas d'augmentation de la productivité. C'est-à-dire que tous les emplois Uber que M. Macron a poussé en avant, mais ça ne fait pas augmenter. Au contraire, ça tire vers le bas la productivité. C'est-à-dire que les emplois nominaux, c'est-à-dire avec les nouvelles technologies, avec toutes les évolutions de la production informatique, l'IA, etc., continuent d'augmenter. Mais par contre, si vous mettez une nuée de gens qui font du vélo pour apporter la pizza, c'est sûr qu'au total, en France, le taux de productivité baisse.
C'est le choix que la France a fait ces dernières années, c'est-à-dire sortir du chômage de masse, créer des emplois, avec des productivités plus faibles. Mais est-ce qu'il vaut mieux qu'une personne soit au chômage de longue durée ou est-ce qu'elle ait un emploi qui va peut-être lui permettre d'en avoir un autre derrière?
Ce que je veux dire, vous changez de débat. On en était à la productivité des salariés.
Oui, mais si la productivité a baissé, c'est parce qu'on a créé beaucoup d'emplois aussi.
Les salariés eux-mêmes, ceux qui travaillent, leur productivité à eux, elle a augmenté. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant un travail difficile et hyper productif. C'est-à-dire ceux qui travaillent vraiment beaucoup et ne sont pas augmentés. Et en revanche, il y a trop d'emplois qui sont des emplois vraiment très soumis finalement aux aléas de l'ubérisation. Et cela, je pense qu'il faudrait leur donner un peu plus de cadre social pour les aider à se former et augmenter et évoluer dans leur carrière. Ils ne peuvent pas rester sur leur vélo à livrer des pizzas.
Chloé Ridel, l'autre promesse majeure de votre programme, c'est celle d'une abrogation immédiate de la réforme des retraites. Là, pour le coup, il va falloir un peu de temps, même si vous arrivez à Matignon. Ça passe par un projet de loi, on est d'accord?
Ça passe par un projet de loi, tout à fait.
Bon.
Et un projet de loi sur lequel
vous seriez prêt à dégainer un 49-3 là-dessus?
Une majorité. Mais vous savez, M. Macron fait passer cette réforme sans majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est bien la raison pour laquelle il avait utilisé le 49-3. Et donc, nous espérons que nous aurons une majorité.
Donc, s'il l'a utilisé, lui, pour le faire, vous pouvez l'utiliser pour le défaire.
Ce n'est pas ce que je dis. Je pense qu'on aura une majorité sans 49-3, je suis claire.
C'est ce que dit Olivier Faure, d'après moi.
Oui, voilà. Mais moi, je vous dis ce que je vous dis. Voilà. Je pense que nous aurons une majorité sur ce texte. Et ceux qui ne voteront pas l'abrogation devront s'en justifier auprès des Français qui, eux, la demandent majoritairement.
Donc, pardonnez-moi, vous ne nous dites pas de 49-3 ?
On espère passer 149.
Je vous dis le passé avec une majorité, parce que je pense que nous aurons une majorité. Je vous répète ce que je vous ai dit déjà trois fois, c'est que ceux qui ne votent pas l'abrogation auront à en répondre devant les Français, dont une majorité est d'accord avec cette abrogation.
Concrètement, pour les Français qui ont voté pour vous, est-ce que vous espérez les faire partir à la retraite et à quel âge?
Eh bien, nous abrogerons la retraite à 64 ans, donc nous reviendrons à la retraite à 62 ans, sachant que les gens qui ont 40 ans d'annuité à 60 ans peuvent déjà partir à 60 ans.
À partir de quand, dans quel délai, pensez-vous pouvoir mener ce projet?
Mais c'est une réforme qui sera prioritaire. C'est une réforme qui fait partie de notre programme et il y a une dimension d'urgence parce que les décrets d'application arrivent là en application. Donc si on veut éviter que des gens aient à subir concrètement dans leur chair les conséquences de cette réforme, il faut agir vite.
Frédéric Bianchi, si on revient sur la réforme des retraites, c'est un désastre inévitable pour les comptes publics? Oh là, gros soupir.
C'est difficile à dire. Alors, il n'y a pas eu de chiffrage, à ma connaissance, du nouveau Front populaire de cette mesure-là, parce que la mesure n'est pas très claire. Donc, abrogation de la réforme des retraites de l'année dernière, c'est à peu près une dizaine de milliards d'euros par an. Le gouvernement espérait 17 milliards d'économies à horizon 2027. Donc, on peut considérer que c'est 17 milliards de plus à horizon 2027 et même 30 milliards à horizon 2030. Est-ce que c'est insoutenable pour les finances publiques? Vous savez, rien n'est impossible quand on décide de le faire. C'est 10, 15, 20 milliards de plus. On rappelle, une dette qui est à 110% du PIB. Chaque année, la France dépense 160 milliards de plus que ce qu'elle gagne. Alors, on peut rajouter...
Ah bah vous nous dites, on a l'habitude, alors.
Peut rajouter 15 milliards, aider les PME avec le SMIC à 1600. Bah, oui. Voilà. Après, il faut voir la réaction des marchés, parce que l'argent qu'on dépense, ce sont l'argent
des investisseurs. Mais vous avez la recette, quand même. Vous parlez comme si on ajoutait simplement des dépenses sans mettre en face des recettes.
Les recettes, c'est hausse des cotisations... retraite, il me semble, points.
Oui. Emmanuel Macron a fait 60 milliards
et une hausse des impôts pour les plus riches
aux entreprises et aux plus riches, dont 20 milliards de cadeaux aux entreprises sans aucune espèce de contrepartie. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut revenir pour renflouer les caisses de l'État.
Je ne refais pas le débat des législatives, pardonnez-moi.
Qui a creusé le déficit et qui fait que la France est en ce moment même.
Et je voudrais entendre Anne de Guigny avant de nous séparer.
Sur la réforme des retraites, je pense que l'enjeu. Il y a un enjeu budgétaire, évidemment que les marchés vont réagir un jour ou l'autre, mais l'enjeu il est beaucoup plus important que ça, c'est un enjeu d'équilibre du système, et on sait aujourd'hui, même avec la réforme, que les retraités vont voir leur pension baisser à partir de 2035. Mmh. À terme, elles baisseront de 40% par rapport à aujourd'hui. Donc moi, vous dites ceux qui la voteront pas, ceux qui la voteront pas devront en répondre, mais ceux qui la voteront devront aussi répondre de l'état du niveau de vie des futurs retraités. Il y a une question de déséquilibre fondamental du système. Il ne marche
pas. Ce que le montre le Conseil d'orientation des retraites. Je ne sais pas d'où vous sortez.
C'est l'INSEE, madame.
Alors, ça sera l'INSEE contre le corps.
Au-delà de l'équilibre,
un dernier mot.
Juste au-delà de l'équilibre budgétaire, c'est la réforme des retraites. Le but, c'est que plus de gens travaillent. On est le pays qui a le système de protection sociale le plus coûteux en Europe. On dépense chaque année 32% pour la protection sociale. Ça, ce sont des chiffres officiels. Pour financer avec tout ça, c'est tout à fait finançable. Ouais. Encore faut-il qu'il y ait plus de gens qui travaillent pour cotiser.
Merci à tous.